Monsieur Marc Lauzic. Madame Christine Lamandé. Monsieur Jean-Yves de Ripper. Madame Janine Le Golvan. Madame Françoise Le Pennec. Monsieur Charles Bietri. Madame Marie-Yvonne Belleuil. Monsieur Philippe Audeau. Madame Catherine Isoard. Monsieur Patrick Lotodé. Madame Christine Desjardins. Monsieur Michel Durand. Madame Morgane Petit. Et probablement futur secrétaire de séance. Monsieur Gérard Marc-Albert. Monsieur Hervé Le Donnant, pouvoir à Olivier Lepic. Madame Monique Thomas, absente. Madame Armelle Moreau, absente, pouvoir à Nadine Rouet. Nadine Rouet, justement, puisqu'on en parle.
Présente.
Merci. Monsieur Pascal Lejean.
Présent.
Monsieur Loïc Houdois.
Présent.
Madame Sylvie Robineau.
Présent.
Monsieur Paul Chappelle.
Présent.
Monsieur Olivier Lepic. Présent. Avant de commencer. Pardon ? Ah, j'ai oublié Karine ? Ah bah oui, pardon. Madame Karine, je me dis, ça va pas aujourd'hui. Madame Karine Le Déveat ? Ah merci, j'ai pas vu. Et monsieur Jean-Luc Servet ?
Présent aussi.
Ah d'accord, bah, écoute, ça tombe bien. Désolé, excusez-moi, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Avant de commencer, petite modification à l'ordre du jour. Le rapport 24 est supprimé, le dossier n'est pas prêt et il est remplacé par un rapport de M. Lejean sur les taux d'imposition, puisque nous avons eu un petit appel de la préfecture, il vous expliquera ça tout à l'heure, qui nécessite que nous revotions ces taux. Vous n'y voyez pas d'inconvénient ? Je vous remercie. Madame Morgane Petit, une désignation totalement non démocratique, vous êtes la secrétaire de séance en tant que Benjamin. Merci beaucoup. On commence par l'approbation des procès-verbaux des conseils municipaux du 23 mars et du 6 avril. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ces... Monsieur de Ripper.
Oui, est-ce que puis-je avoir une réponse à la question que j'ai posée sur l'autorisation de programme numéro 1, c'est-à-dire la liaison bourg-plage.
Et quelle était la question ?
La question, c'est que l'autorisation de programme, elle porte sur 1,7 million de mémoire. 1 744 et que nous avions voté en conseil municipal pour 1 314.
D'accord. Monsieur Lejean, vous avez la réponse ou...
Jean-Luc
Ou Jean-Luc
Il était noté, excusez-moi, monsieur Lejean, il était noté dans le compte-rendu que c'était monsieur Lejean qui devait donner la réponse.
Ah. C'est pas gravé dans le marbre.
Monsieur Lejean, il a pas travaillé.
Ou est-ce que monsieur Servet a travaillé ? Ou est-ce qu'on répond à monsieur de Ripper cette semaine ? On répond à monsieur de Ripper cette semaine.
C'est-à-dire que vous allez me répondre exactement dans les mêmes conditions que ce qui se trouve dans le compte-rendu ? Parce que le compte-rendu, déjà, on devait me répondre dans la semaine du précédent conseil municipal.
Monsieur de Ripper, nous ne sommes
donc
pas...
Donc là, je compte sur vous, alors.
Oui, vous pouvez. D'abord, en général, quand je vous dis que je vous transmets un document dans la semaine, vous l'avez. Et on n'est pas parfait, ça nous arrive de faire des erreurs. En l'occurrence, on aurait dû effectivement vous répondre, et je m'en excuse. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur les procès-verbaux des conseils municipaux ? Aucune, ils sont donc adoptés. Je vous remercie. Compte rendu des décisions du maire que vous trouvez en page 2 de la note de synthèse avec des décisions qui courent du numéro 21 à 42. J'imagine qu'il y a des questions. Il n'y en a pas. Bah, écoutez, merci beaucoup. On va donc passer maintenant...
Oui, si, je suis désolée, j'avais mis non, mais c'est par rapport au bordereau 34 sur les zéro phyto. Jusqu'ici, je crois qu'il y en a un deuxième aussi pour ça. Oui, et le 38. Le 34 et le 38. Jusqu'ici, qui faisait ce travail-là, c'est-à-dire de désherber parce que là,
Après, je crois que c'est les services municipaux, non ? Mm-hmm. Pour partie, en tout cas.
Une partie des services municipaux, une partie d'une entreprise qui venait les faire aussi, oui.
D'accord.
Il y avait déjà une entreprise qui venait, donc on a refait le marché, donc c'est l'entreprise là qui a été choisie.
Ça, c'est une reconduction des marchés, ça.
Voilà.
Donc c'est comme, il n'y a pas plus d'heures.
Non, il n'y a pas plus d'heures, moins d'heures. Il n'y a pas plus de travail parce qu'on met de moins en moins de produits phyto. On met de moins en moins de produits phyto, donc il faut passer de plus en plus de temps, mais mis à part ça, voilà. Si on veut que ce soit propre et que le cimetière soit correct pour les gens qui vont là-bas.
Voilà,
après, qui sait,
merci.
Voilà.
Non, juste une question sur les cimetières, puisqu'on parle des bâtiments communaux qui sont accessibles aux handicapés. Dans le cimetière, avec les gravillons, c'est très difficile d'être en chariot roulant. Donc voilà, s'il y avait une solution pour améliorer la situation, ce serait bien.
excusez-moi. Oui, à terme, il faudrait supprimer les revêtements gravillons, c'est clair. Et puis, dans notre vieux cimetière, il y a même un petit problème de, je dirais, d'inclinaison du chemin qui mène jusqu'au milieu du cimetière. On passe au rapport 4 qui n'appelle pas à un vote, puisque c'est juste une prise de connaissance de ce rapport de la Chambre régionale des comptes sur notre intercommunalité. Donc je ne sais pas si vous avez eu le temps de prendre connaissance de ce rapport. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ? Monsieur Daripin.
Oui, la Cour en ce qui concerne les ordures ménagères. La Cour des comptes souligne le fait qu'il faut faire rapidement un choix entre la redevance et la taxe. Est-ce que vous avez une opinion sur la question et si oui, laquelle ?
Je pense qu'on n'en a jamais discuté au sein du bureau municipal. Il y a deux méthodes, effectivement. Hein, au sein de l'intercommunalité, il y a des gens qui sont évidemment très favorables à la TOM, et notamment Belz, puisqu'elle est un peu plus, je dirais, incitative. Et puis,
excusez-moi.
Oui, à la redevance, pardon. Mais je vous avoue que pour l'instant, on ne nous a pas encore demandé de voter. Je n'ai pas d'avis sur la question pour le moment, même si la redevance me paraît peut-être plus efficace en termes, je dirais, environnemental. Et puis, maintenant, dans un pays comme le nôtre, est-ce que c'est applicable ? Je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de fraude aussi avec la redevance.
À l'heure actuelle, elle est appliquée sur.
Oui, tout à fait. Sur, d'ailleurs,
sur
le maire de.
En particulier sur Etel.
Ouais, le maire de l'ancienne interco de la rivière d'Etel semble plutôt eux très favorables à cela. Je m'entends plutôt très bien avec Bruno et il milite beaucoup pour ça. Je suis pas loin de penser qu'il a raison, effectivement. Même si pour un certain nombre d'autres communes, il y a plutôt une forte opposition à la redevance. Vous avez une opinion à titre personnel, monsieur le directeur ?
Personnellement, je pense qu'en effet, la redevance est incitative et quelque chose de beaucoup plus responsable et à mettre en place. Oui.
Ce que je vous propose, de toute façon, le choix va bientôt se poser à nous, hein, et moi je ne prendrai pas la décision tout seul, donc je pense qu'on pourrait en parler en conseil municipal, encore une fois, à titre personnel, de ce que je connais, mais sans être vraiment rentré dans le dossier avec beaucoup de je serais plutôt favorable à la redevance, effectivement. Mais,
on pourra peut-être expliquer en conseil municipal exactement quelles sont les différences entre la redevance et la taxe.
Ouais, tout à fait.
C'est vrai qu'il y a une différence entre la redevance et la taxe. A priori, au niveau fiscal, la redevance est plus la contrepartie d'un service rendu. Oui. Et que même la taxe ordure ménagère, parfois, en droit fiscal, ça a été plus ou moins remis en cause.
Bah, c'est-à-dire donc que la taxe elle est assise sur la valeur locative, elle est payée par tout le monde, ouais. Alors que la redevance n'est payée que par ceux qui utilisent le service.
Ça semble plus logique.
Ça semble plus logique et surtout plus juste.
Oui. Ce que je vous propose, c'est peut-être lors du prochain conseil municipal d'avoir un petit débat sur cette question avec un exposé sur les modalités précises, les conséquences éventuelles sur nos concitoyens et puis les avantages et les inconvénients des deux systèmes. Monsieur.
Oui, surtout ici, nous sommes en secteur touristique. Et c'est problématique un petit peu parce que les gens n'ont pas le même état d'esprit que ceux qui sont là à l'année. Donc ils sont en vacances, ils veulent tout avoir et parfois l'incitation n'est pas de mise. Et c'est un peu le désordre.
Dans un pays, enfin on serait un pays extrêmement civique, je pense que là il n'y a pas photo, c'est la redevance, c'est le meilleur système.
Oui.
Malheureusement, le problème de la redevance, c'est que voilà, les gens cherchent à détourner le système et donc on se retrouve avec des situations comme en fin de week-end que on a tous connu, hein, qu'on connaît tous, hein, et Marc aussi. D'avoir des gens qui, pour éviter de payer, mettent des ordures un peu n'importe où, quoi. Donc, c'est ma seule prévention, parce que sinon, d'un point de vue purement technique, moral et efficace, la redevance me paraît être un système plus juste et plus incitatif, effectivement, et par ailleurs, effectivement, plus juste, parce que c'est pas un système de, je dirais, de pollueur-payeur, mais on se rapproche un petit peu plus. Gros générateur d'ordures ménagères paye plus que. Donc voilà. Maintenant, je pense que ce serait intéressant effectivement que l'ensemble du conseil municipal soit un petit peu informé et mis à niveau de ces deux possibilités, sachant encore une fois que voilà, les maires de l'ancienne communauté de communes de la rivière d'Etel sont très très favorables à ce que l'ensemble de l'intercommunalité passe en redevance. Après, il y a un peu de courage politique aussi, parce que c'est, voilà, c'est vis-à-vis des professionnels, évidemment, c'est un petit peu plus difficile à faire passer d'un point de vue politique. Mais on est là pour ça. Donc je vous rejoins plutôt, encore une fois, sans avoir vraiment beaucoup travaillé sur le sujet à ce stade. Est-ce qu'il y a d'autres, Monsieur Dripin ?
Oui, une deuxième question, une dernière question. Est-ce que vous avez une opinion sur le passage en communauté d'agglomération, ce qui permet de doubler la dotation de l'intercommunalité ?
Alors, là non plus, je n'ai pas un avis très tranché. Le sujet n'est pas encore sur la table, puisque nous n'avons pas encore... le sujet se posera dans quelques années, quand on aura atteint le seuil. Ça renforce aussi beaucoup les pouvoirs de la ville-centre. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup de pouvoir sur notamment les statuts, des vétos. Là aussi, j'avoue que je n'ai pas encore d'avis sur la question.
C'est-à-dire que c'est une question qui va se poser très vite, étant donné que la loi a été modifiée. Et la Cour des comptes, justement, souligne le fait qu'il y a possibilité, à l'heure actuelle, de passer en communauté d'agglomération.
Ouais. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de débat au sein de l'Interco sur le sujet. Enfin, le sujet n'est pas arrivé là, même si on en a déjà discuté. Connaissez mon point de vue général sur les intercommunalités. Si on pouvait faire fonctionner celles qu'on a bien, je pense que ce serait déjà pas mal avant de passer à un autre stade. Et encore une fois, il y a des avantages et des inconvénients pour une ville périphérique comme la nôtre. Je vous rappelle que le gros principal problème que j'ai avec l'intercommunalité actuelle, c'est que Carnac n'est pas représenté à la hauteur de sa contribution fiscale. C'est-à-dire que quand on nous demande de payer, c'est à la population DGF et la représentation politique est à la population INSEE. Donc déjà, ça me pose un problème parce qu'on est le principal contributeur fiscal, mais en termes de poids politique, je dirais en tout cas d'un point de vue quantitatif, notre vrai poids n'est pas représenté. Donc donner plus de pouvoir à la ville-centre, pourquoi pas, il y a une certaine logique. La ville-centre a vocation à accueillir un certain nombre d'infrastructures supérieures ou mutualisées pour l'ensemble de l'intercommunalité. Je dirais qu'il y a des avantages et des inconvénients. S'il y a une évolution, je militerai de toute façon, quoi qu'il arrive, avec peu d'espoir, pour qu'il y ait un rééquilibrage, en tout cas des représentations politiques qui soient un petit peu plus alignées avec les contributions fiscales et notamment les contributions financières des Carnacois à l'intercommunalité, parce que ça me paraît être plus juste en termes démocratiques. Encore une fois, j'ai pas de... Vous avez un avis, M. Dripin ?
Non, parce que justement, il y a une étude à l'heure actuelle qui est en cours... à l'Interco sur le sujet. Et comme vous, c'est quand même vous qui nous représentez, c'est vous qui donnerez votre opinion sur la question. C'est pour ça que je vous la posais.
Oui, mais je pense que là aussi, c'est un sujet important et je me permettrai de consulter le conseil municipal, y compris l'opposition sur ce sujet, qui serait une évolution majeure de notre Interco. Donc après, je pense que ce sera plutôt probablement un projet de deuxième mandat. Je ne vois pas passer une réforme comme ça au cours de ce mandat-là. Il y a tellement de choses à faire, et puis bon, ça poserait quand même des... je pense qu'il y aurait des tractations politiques assez sérieuses sur le sujet. D'autres questions sur ce rapport de la Chambre régionale des comptes ? Donc le Conseil municipal en a pris connaissance. Je passe maintenant la parole donc à M. Servet à propos d'un dossier important qui est la construction du restaurant scolaire, pour lequel nous avons donc à avoir une présentation... du projet par le cabinet d'architecture qui a réalisé ce projet. Jean-Luc, avant qu'on commence, tu voulais peut-être dire un mot ?
Oui, juste présenter le sujet très brièvement. Monsieur Bléher, qui est présent avec nous ce soir, architecte du projet, va dans un premier temps nous exposer les grandes lignes du dossier, hein, qui ont déjà été vues à plusieurs occasions lors des commissions communes, aménagement, cadre de vie et enfance, jeunesse notamment. Donc je vous propose d'abord de regarder et d'écouter les explications et commentaires de Monsieur Bléher, et puis ensuite on passera à la délibération. L'objet aujourd'hui, outre la prise de connaissance du projet par l'ensemble du conseil municipal, est donc effectivement d'arrêter le montant prévisionnel définitif des travaux. Voilà.
Parfait. On passe à la présentation.
Ça doit fonctionner. c'est bon. Donc on travaille déjà depuis plusieurs mois sur ce projet. Le site avait été défini de façon assez précise dès le début, puisqu'il s'agissait de la plateforme occupée actuellement par un bâtiment modulaire. Cette plateforme se trouve en surélévation par rapport aux cours de l'école publique. On sait aussi pourquoi, parce qu'on a fait des sondages. En fait, c'est un point dur, c'est du rocher. Donc, à l'époque, on s'est sans doute abstenu de tout mettre à niveau, ce qui pose quelques soucis en termes d'accessibilité et de traitement justement de ces accès. Bon, ce projet prévoyait à l'origine la possibilité d'avoir une extension possible pour un espace polyvalent. Il a été abandonné. On a toutefois préservé, enfin gardé le principe qu'il puisse être un jour mis en œuvre. C'est cet espace ici. Ensuite, on a pas mal travaillé. On a fait beaucoup de scénarios successifs sur la possibilité d'utiliser le moins d'espace possible, de préserver des espaces verts pour les enfants, ainsi que cette grande bande qui est actuellement non aménagée, de pouvoir les réserver aux enfants, même si tout ça sera cloisonné et séparé pour permettre de respecter un certain nombre de critères de sécurité. Donc, on a privilégié, mais ça vous l'aviez sans doute vu sur les projets initiaux, des accès de service au nord avec une voie de desserte bien spécifique, des stationnements séparés de l'ensemble des cours par une clôture. Les espaces au sud et à l'ouest étant largement vitrés pour bénéficier du maximum d'apport solaire et la façade principale, bien sûr, orientée vers la rue. Alors, à l'origine, il n'y avait pas eu, ou le programme ne prévoyait pas tout ce qui était aménagement des abords, traitement des abords. Il y a eu de nombreux échanges à ce niveau-là, plusieurs scénarios de développer. On arrive à cette image finale qui est somme toute assez compacte et qui prend en compte en plus, et vous le verrez ensuite dans le décompte final, le traitement de la façade sur la voie. Donc là, c'est un plan un peu plus technique qui reprend un peu le précédent où là, vous avez essentiellement les points de niveau puisqu'on a un terrain très en pente. Visuellement, c'est un projet très épuré qui a eu l'accord de principe de l'architecte des bâtiments de France. Donc, vous avez ici une vue qui nous permet de visualiser donc la perception de ce bâtiment depuis la rue, bien que là, pour des raisons justement de communication, on se soit mis au-delà de la clôture. Mais quand on rentre dans l'établissement, on aura cette perception d'un volume très épuré, l'espace vert dont je vous parlais tout à l'heure, les cheminements permettant l'accessibilité PMR à l'établissement, et ici des stationnements et une voie de service séparée ici par une clôture qui délimite comment bien l'espace. Côté rue, on est resté sur quelque chose de très simple. On avait imaginé à un moment donné pouvoir créer un local pour accueillir des vélos, mais qui a été abandonné. On a un local poubelle ici à traiter. On a proposé de rester très sobre et de prolonger en fait le soubassement moellon, de le prolonger sur le long de la clôture et d'avoir deux accès, un accès donc pour les élèves et enseignants et un accès de service. Il y a une petite nuance, nous on était parti sur des bâtiments à tout à plat ici pour l'habillage du local poubelle. Madame Laure d'Hauteville souhaiterait que soit on masque ce petit bout de toit, soit on le traite avec une ossature bois et un élément plus saillant. Moi, je pense qu'on va essayer de faire quelque chose de plus discret. Je ne vois pas l'intérêt de ramener en façade un édicule avec un bardage bois. Enfin, pourra en reparler en commission, mais parce que je viens de recevoir le courrier, mais je pense que plus on restera simple, mieux ce sera. Donc voici le plan. Donc le plan est relativement c'est pareil, simple. On a essayé de mutualiser le maximum d'espace. On part sur une salle à manger donc de 211 mètres carrés environ, calculée pour 200 rationnaires. Le choix de la cuisine avec préparation sur site avait été fait. Et c'est vrai que quelle que soit la taille, j'allais dire, de la salle à manger, on arrive assez rapidement à des surfaces incompressibles liées à la réglementation, la marche en avant, donc la partie cuisine proprement dite. Là, elle fait 182 mètres carrés, je crois, de mémoire. À la limite, on aurait 100 mètres carrés de plus de salle à manger ou 100 rationnaires de plus, elle ferait la même surface. Mais ça, c'est la problématique liée à la réglementation. On ne peut pas y toucher. Donc, l'accès se fait par un vaste porche qui permettra aux enfants d'être à l'abri, un hall, ce qu'on appelle un hall de décompression un peu, avec un accès au sanitaire d'une part, accès au hall. On a essayé de minimiser, on a pas mal travaillé sur les circulations, minimiser les espaces pour, par exemple, au niveau des sanitaires PMR, d'avoir qu'un seul sanitaire PMR plutôt que de multiplier le nombre de sanitaires PMR. On a regroupé dans cet espace les zones techniques. Vous avez également un accès à une salle à manger pour les enseignants, avec possibilité d'avoir accès vers la salle à manger principale. Ensuite, dans cette zone ici, toute la partie vestiaire du personnel, sanitaire du personnel, obligatoire. Code du travail oblige. Un espace chaufferie. Et la possibilité ici, on l'a laissé toutefois, c'est l'explication de ce pan coupé, c'est la possibilité, on se dit, bah, si on doit avoir une extension, on prévoira ici, dans l'ossature, une réservation, la possibilité d'avoir ici un cheminement, et pourquoi pas, à terme, avoir une extension possible. Donc cette salle à manger sera orientée ici sud pratiquement, avec un débord de toiture pour protéger, évidemment, pour la protection solaire. Et sur sa façade ouest, des façades également vitrées ouvrant sur un espace qui pourra être aménagé et utilisé aussi par les enfants. Donc on a voulu rester sur un projet, vous le remarquez, hein, qui s'inscrit dans un rectangle. Le souci, bah, c'est forcément aussi financier, mais en termes d'architecture, au contraire, c'est ce que souhaitent les ABF, qu'on reste sur des projets simples qui s'inscrivent bien dans le site. Donc là, c'est une image. Bon, c'était un premier jet pour vous donner un peu la volumétrie du projet par rapport à son environnement. Il y a, pour ma part, je pense qu'il n'y a pas de nuisance possible à avoir par rapport au pavillon à côté. On a pris le soin aussi d'intégrer tout ce qui est groupe de ventilation, extraction cuisine et tout ça. Rien ne sera apparent.
À ce propos, je voulais vous remercier parce qu'on a eu tout au long du projet plusieurs réunions avec les riverains,
oui,
qui étaient très inquiets au début, évidemment.
Et oui.
On les a reçus pour leur présenter quand c'était lundi dernier. Samedi dernier, donc pour leur présenter un petit peu le projet final, et ils nous ont d'abord remercié, et ensuite ils nous ont demandé de vous remercier aussi parce que beaucoup de leurs remarques avaient été prises en compte, et on leur a dit qu'on les reverrait d'ailleurs une fois que le bâtiment commencerait à vivre et que sa fonction finale serait mise en œuvre, pour voir si éventuellement il n'y aurait pas des petites améliorations au niveau acoustique encore une fois que le projet sera. En tout cas, voilà, il n'y a pas d'obstacle de la part des riverains.
Oui, c'est vrai qu'il y avait effectivement deux nuisances possibles. Hein, c'est le bruit. Alors, le bruit des enfants, bien sûr, parce que si on ramène les cours à proximité des résidences, ça peut être une gêne. Là, on a un accès de service, ça veut dire une livraison, voire deux livraisons par jour à des heures raisonnables. Donc, ils n'ont rien à craindre de ce côté-là. Et ici, et c'était un souci, mais ça, c'est ce qu'on essaie de faire sur tous nos projets. Mais je pense que de toute façon, l'architecte des bâtiments de France nous l'aura aussi demandé, c'est d'intégrer tout ce qui est machinerie dans un volume fermé avec un traitement acoustique. C'est-à-dire que tous les rejets passent par l'intermédiaire de chicanes pour qu'on absorbe le bruit. Donc, dans notre équipe de maîtrise d'œuvre, d'ailleurs, on a une acousticienne, qui veillera à ce que ces points-là soient respectés. Je pense que pour les riverains, effectivement, c'est un sujet important. Donc ça, en vue plane, hein, la façade d'entrée avec un bardage métallique blanc, mat, une entrée formant porche. Bon, ici, on est parti sur un habillage de couleur bleue. Et en partie supérieure, un habillage bois. La volumétrie supérieure est en bois. Alors, l'intérêt du... Pourquoi aussi ce volume ? Ça paraît pas comme ça. Je vous présente pas de coupe, mais il y a un intérêt. Je vous ai parlé tout à l'heure des façades sud qui étaient protégées ici par cette avancée. Donc, c'est important. Vous remarquerez qu'ici, vous avez également des baies vitrées. Et ces châssis font face aux baies qu'on a côté ouest, donc de l'autre côté, et permettent d'avoir de la lumière en fond de salle sans avoir de gêne. Et ça permet également de pouvoir les ouvrir électriquement et d'assurer la ventilation en cas de surchauffe l'été pour avoir un confort d'été sans forcément avoir des grosses machineries à mettre en route. C'est tout simplement, on fait l'air frais rentre en partie basse et peut ressortir en partie haute. Ça s'appelle du bon sens, c'est tout simple. Mais ça fonctionne très très bien. Nous, on l'a déjà mis en œuvre sur des bureaux et ça fonctionne très très bien. Un autre aspect, une autre vue, avec là, cette fois-là, la casquette dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, au niveau de la volumétrie. Alors avant de passer au tableau financier, est-ce que vous avez des questions techniques ou architecturales à poser.
Madame Le Golban, le micro.
Vous avez dit que vous avez été obligé d'abandonner un local à vélo. Pour quelle raison ?
Ah bah c'était un choix financier. Enfin, il avait été chiffré en option. Enfin, Monsieur Servet pourra en parler.
Je peux répondre. Lors de la dernière commission aménagement cadre de vie en France Jeunesse, dans la présentation et la discussion qu'on a eue sur le projet, il a été effectivement considéré que ce local n'avait pas un caractère forcément indispensable et il pesait un coût non négligeable sur le budget d'ensemble. Voilà. Donc rappelons que M. Blair l'a glissé tout à l'heure, mais peut-être un peu discrètement. Le projet initial portait effectivement sur la construction, bien entendu, du restaurant scolaire. On y a intégré tout le traitement, façade et liaison, enfin en limite de propriété entre la partie, on va dire, terrain, école et restaurant et la partie publique, rue des Korrigans. Donc il y a eu cette intégration, cette prise en compte qui n'était pas initialement prévue, du mur de clôture, du remplacement du portail et du local poubelle, et donc l'idée de ce local à vélo.
D'autres questions sur les aspects architecturaux, Monsieur Oudot ?
Une question simple. Dans le projet, en fait, la salle à manger fait 211 mètres carrés.
Oui,
environ. Ouais. Ouais. Je ne connais pas la surface en fait, du restaurant scolaire actuel.
Ah, c'est beaucoup plus.
C'est beaucoup plus.
Il y a beaucoup plus.
C'est de l'ordre de 400.
400 mètres carrés à peu près. On passe, s'il n'y a pas d'autres questions, on passe au tableau financier. Madame Le Golban ?
Oui, peut-être que c'est Monsieur Servet, là. Là, il y a une cuisine, donc, évidemment, qu'on nous a présentée. La cuisine actuelle, qu'est-ce qu'on va en faire, finalement ?
La cuisine en tant que matériel ou en tant que immeuble ?
Matériel.
Si vous connaissez, pour partie, un bon revendeur d'inox.
Alors,
de toute façon, on passera sur. Excusez-moi.
Non, mais je pense aussi que certains matériels pourraient servir à améliorer la cantine du Ménèque, notamment. Puisque, en fait, ce qu'on voudrait, c'est profiter peut-être de transférer des matériels qui marchent encore très bien. Parce qu'on sait qu'au Ménèque, on a une cantine on a une cuisine qui est un peu limite pour certains exercices. Donc, si on peut utiliser ça pour améliorer la cantine du Ménèque, la cuisine du Ménèque sera la première chose à faire. Le reste, ce sera.
Aujourd'hui, si derrière la question, c'est effectivement la réutilisation d'un certain nombre d'équipements, bien sûr, ça a été envisagé. Il y a quand même des diagnostics sur les équipements existants. Ils sont quand même pour la plupart fatigués. Ceux qui sont en bon état, ils seront réutilisés ailleurs. Vouloir réutiliser ponctuellement, alors si évidemment l'ensemble de la cuisine ou 80% de la cuisine était récente, on aurait pu... Mais réutiliser ponctuellement des éléments d'équipement qui doivent s'inscrire dans du neuf et qui ne sont plus sous garantie, que peut-être dans un an, dans deux ans ou dans six mois tombent en panne et qu'il faut les remplacer, réaménager les travaux neufs pour réadapter, ça n'avait pas d'intérêt financier.
Quand c'est que ce soit réutilisé, pour le MEDEC, ça me va bien. Autre question par contre, quel intérêt, enfin moi je trouve dans... Là, quand on regarde comme ça, on ne voit pas la clôture, mais elle y sera. Bon, ça oui. Me gêne un petit peu, je trouve. Mais bon. Quel intérêt de mettre du coup... Alors, local à vélo, on abandonne, mais on met des parkings. Je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est de la verdure jusque-là. Et puis là, on va nous mettre
on
des...
On a effectivement... Il y avait une demande au programme de 15 places ici, essentiellement pour les enseignants.
Tous les personnels, qui soient enseignants, accueil de loisirs et cantine.
Et ça a été, depuis le début, il y avait eu un objectif de 15 places à prévoir.
Tout à fait.
Ce qui est alors, vite. Effectivement...
Ça fait 15 places mobilisées sur la rue des Corrigans ou le tour actuel de l'actuelle cantine.
Enfin, ce qui est dommage, c'est qu'à l'ancienne, ce qui sera l'ancienne cantine scolaire, ça sera sert de parking. C'est un petit peu dommage, moi, je trouve. Mais bon, c'était une remarque, c'est tout.
Ah oui, qui oblige les gens à traverser la rue, c'est ça. Oui, je sais, il y a de la place, c'est ce que tout le monde... Ah,
ça c'est... Seulement, ça va servir de parking pendant quelques temps, mais j'imagine que la municipalité va faire quelque chose de ce bâtiment. Donc, on n'est pas certain qu'un parking aussi important perdurera définitivement à cet endroit-là. Et par ailleurs, on a... aussi un souci, c'est qu'on a quand même l'aire d'accueil et de dépose des enfants qui est dans la rue, et le plus on a de voitures dans la rue à ce moment-là, plus ça rend compliqué la dépose par les parents. Donc si on peut soulager le stationnement dans la rue des personnels qui travaillent dans l'école, ça améliore aussi, ce qui est assez compliqué, je pense que Loïc pourrait en parler, la dépose des enfants devant l'école.
Oui, moi je voulais poser une question. J'ai entendu l'architecte dire que la salle pouvait contenir 200 rationnaires, mais je croyais qu'il n'y avait qu'une centaine d'élèves qui déjeunaient de l'école publique. Parce que quand les élèves du privé déjeuneront dans leur restaurant...
En période de... Je parle sous le couvert de Loïc, mais en période, par exemple, d'accueil de loisirs en période estivale, ça monte à 130 couverts, 130, 140, et on n'a pas les personnels municipaux ou renforts de personnel de sécurité sur la commune. Donc, on est un minimum de 130, 140 dans les périodes de pointe, on va dire.
Puisqu'il coûte cher sur ce type d'ouvrage, je vous en doutez, c'est la partie cuisine proprement dit, les quelques mètres carrés qu'on peut avoir en plus pour les salles à manger, en dehors du fait que c'est un certain confort, c'est pas des mètres carrés qui nous coûtent le plus cher. Vous avez bien vu le rapport de surface entre les deux. Et je ne sais pas quelle est la situation de la commune, mais moi ça m'est arrivé déjà sur plusieurs communes d'être amené même à agrandir. Des salles à manger. On sait que la cuisine, ce ne sera pas nécessaire. C'est un point fixe, un point dur.
Madame Lamondé ? Oui, juste une question d'organisation. J'ai vu que l'espace réservé aux enseignants était complètement fermé. Et je voulais savoir comment vous envisagez le fonctionnement, parce que les repas viennent d'où ? Est-ce qu'ils passent par le...
Non, ils passent. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez ici ce qu'on appelle la marche en avant, principe de marche en avant, entrée-sortie. Et c'est vrai qu'on aurait pu imaginer que ça passe par un office intermédiaire, mais ça génère encore des mètres carrés perdus. Et là, on est parti du principe que les entrées et sorties de la salle à manger servent également par un espace réservé dans la salle à manger. Viennent vers la salle des professeurs. voyez, parce que c'est vrai que si on est sur des gros projets, on a ce problème-là, par exemple, sur les espaces polyvalents et autres. En général, on trouve un espace intermédiaire office. Mais ici, c'est pas à l'échelle du projet, si vous voulez. Ça nous aurait généré beaucoup de mètres carrés pour un service moindre. Il vaut mieux qu'on soit déstructuré. D'ailleurs, on avait imaginé que cet espace aussi serve aussi de dépôt, de, ben, qu'il y a un aspect éducatif, que les enfants déposent leur, leur couvert. Et au départ, enfin, je ne sais plus qui c'est qui en a travaillé là-dessus. On a préféré rester sur des espaces simples.
D'accord. Merci.
D'autres questions ? On passe au tableau financier, donc, si vous le voulez bien.
Oui. Donc, trois volets sur ce projet. Le, ici, vous avez l'estimation bâtiment proprement dit, avec la partie VRD. C'est, et dedans, donc, enfin, on verra tout à l'heure dans le VRD, il y a un certain nombre d'autres aspects de, d'intégrer, mais ça représente un poste très important. L'aménagement des espaces verts, même si lors de la dernière commission, on a décidé de ne pas forcément tout traiter en termes de paysage, et il y a une partie qui serait faite par les services municipaux. Je pensais que quelqu'un a parlé de clôture tout à l'heure, d'espaces verts, intégration de clôture, tout ça. Donc ici, vous avez un montant travaux VRD à 153 000 euros, un travaux, la liste des lots, un montant bâtiment 936 520 euros, dont 120 000 euros de, d'équipement de cuisine. Donc j'ai un total, restaurant scolaire, terrassement VRD, 1 089 650. C'est moi qui appuie sur le petit bouton là, ou c'est...
C'est moi parce que je ne vois pas très bien.
J'ai pas le contrôle.
La moyenne d'âge du côté municipal est quand même assez élevée. Compris moi.
Là, il ne doit pas être centré, votre feuille. Ouais, alors ça, c'est le dernier. On va revenir en arrière sur les deux autres tableaux, si vous voulez bien. Donc ça, c'était le premier. On passe sur le deuxième. Voilà. Donc là, on a ventilé un peu les, tous les postes. Le, la partie démolition, plus, bien sûr, du bâtiment modulaire. L'intégration d'une cuve d'eau pluviale de 10 mètres cubes pour réutilisation des eaux de pluie. Malheureusement, on ne peut pas les réutiliser dans les sanitaires puisque ce sont des locaux occupés par les enfants. La loi française l'interdit. Mais on a gardé cette possibilité pour qu'on puisse... avoir un système de pompage par les employés communaux pour l'arrosage, entre autres, et le nettoyage. On a également intégré un aspect sécurisation et contrôle des accès qui ont été demandés et apparus importants lors de l'élaboration du projet, essentiellement contrôle d'accès par badge couplé à un système d'alarme intrusion pour l'ensemble des locaux. Clôture, électrification, ce n'est pas des clôtures électriques, je vous rassure. Hein, c'est c'est pas un camp retranché, mais ce sont les portails électrifiés et mécanisés. Et également une demande en termes d'interphonie au niveau de pour l'école maternelle, puisque vous avez... pas sans remarquer que les points d'accueil sont très éloignés des salles de classe. Donc ça fait partie d'une demande. Et également pour l'école primaire. Donc dans cet ensemble-là, pour un montant de 60 000 euros, on a également intégré des contraintes dites architecturales. Ça, c'était essentiellement à la demande de Mme Loire d'Hauteville. Le chevron bois sur le volume haut, la partie haute, chevronnage bois, plus-value, clôture, ça je ne suis pas sûr parce que du coup elle a souhaité qu'on revienne à des choses très très simples, mais il faudra en discuter avec les élus, parce que c'est quand même un aspect important, c'est la perception de cette façade sur la rue, quand même très important. Mais l'image qu'elle nous a présentée, en fait, c'est de remettre le portail actuel, en gros. La construction du local poubelle, Monsieur Servet tout à l'heure parlait du petit local vélo, donc c'est vrai que c'était de cet ordre-là aussi, un petit peu moins cher, mais c'était pratiquement ce montant-là. Mais celui-là, on a une obligation réglementaire. Et également l'habillage sur rue, par des moellons qui prolongent le soubassement du bâtiment existant. Donc normalement. Donc une synthèse de tous les tableaux que vous avez vus. Attendez, hop. Voilà. C'est bon là? J'ai plus le contrôle là? Ah, c'est terrible. Bon, c'est terrible. Donc on a reporté sur ce tableau final le montant des travaux initiaux, y compris VRD, la partie démolition proprement dite. Le poste environnemental, c'est-à-dire la récupération des eaux pluviales. On a également fait chiffrer, je ne l'ai pas fait apparaître là, la possibilité de mettre en place, ça pourrait être optionnel, des capteurs solaires pour l'eau chaude sanitaire, même si on sait que on l'amortira sans doute jamais, compte tenu du peu d'eau chaude consommée sur ce type d'établissement, puisque les machines produisent elles-mêmes leur eau chaude, qui est de l'ordre de 5 à 6 000 euros. Donc, soit ça peut être mis en option, à voir, à chiffrer. Après, c'est un choix politique, entre guillemets. La sécurisation, le contrôle des accès et les contraintes architecturales pour arriver à un montant de 1 230 050 hors taxe.
Il y a des questions, des remarques sur ces derniers tableaux? Des informations que tout le monde connaissait. Monsieur Servet, je vous propose de passer au vote alors.
Oui. Donc la délibération numéro 5. Le conseil, je me permets, si vous m'y autorisez, une lecture diagonale. Le conseil municipal a par délibération du 16 décembre 2016 approuvé le programme des travaux de construction du nouveau restaurant scolaire pour un montant d'un 1 050 000 TTC, le lancement du marché de maîtrise d'œuvre. Le marché de maîtrise d'œuvre signé avec le groupement Blair, Exocet, Acoustibel, Jeffy Engineering et Hercilier a travaillé sur ce dossier et on arrive à la présentation qui vient de vous être faite sur l'ensemble des travaux, prise en compte de la démolition du bâtiment, des contraintes environnementales, des contraintes architecturales, notamment liées aux échanges avec l'architecte des bâtiments de France, et bien entendu l'ensemble des travaux nécessaires à la sécurisation des établissements dans un contexte de Vigipirate qui avait déjà été abordé, même préalablement au projet restaurant scolaire. L'avant-projet définitif, donc au stade actuel, évalue le coût à 1 230 050 euros hors taxe, soit 1 476 060 TTC, avec un calendrier prévisionnel de l'opération, tel que consultation des entreprises à l'été 2018, démarrage des travaux novembre 2018 et durée des travaux 12 à 18 mois. Il est rappelé qu'une autorisation de programme a été votée par le conseil municipal le 6 avril dernier. On rappelle l'avis des commissions aménagement et cadre de vie, et vie citoyenne éducation jeunesse du 26 mars, que nous citions tout à l'heure. L'avis favorable de la commission finances et développement du 16 mai 2018. Et donc il est proposé au conseil municipal de valider les études APD du projet de construction, fixer le montant définitif des travaux à 1 230 050 hors taxe, soit 1 476 060 TTC, d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué à procéder à la signature de l'avenant 1 au marché de maîtrise d'œuvre correspondant, à autoriser le maire ou l'adjoint délégué à poursuivre les études de maîtrise d'œuvre, d'autoriser le maire à déposer le permis de construire, à solliciter les subventions mobilisables, à conduire toutes les études complémentaires nécessaires et à lancer les avis d'appel public à concurrence des entreprises et signer tout document relatif à ce dossier. Monsieur le maire.
Parfait. Madame Michard, pas de bonnes nouvelles sur les subventions cet après-midi? J'ai cru comprendre qu'on attendait des bonnes nouvelles. Lundi. Bon, voilà, si on a des subventions. Monsieur Deripa.
Oui, je voudrais m'exprimer quand même sur le projet, puisque sur ce projet, on s'était déjà exprimé en 2016. On avait voté contre le projet qui nous semblait, dont le coût nous semblait démesuré par rapport au service rendu. Bon, à l'époque, le coût estimé était de 1 million d'euros TTC. Aujourd'hui, on passe à 1,5 million. De plus, pour être complet, il faudrait ajouter aussi la construction de la nouvelle salle multisport, puisqu'il faut détruire l'ancienne pour pouvoir construire le restaurant scolaire. Donc on va arriver à une enveloppe budgétaire qui va tourner autour d'1,6 million, 1,7 million. Tout ça pour, parce qu'on en parlait tout à l'heure, pour une centaine de repas servis par jour, et avec un nombre d'élèves qui est en baisse, hein, puisqu'on passe de 150 élèves à la rentrée 2017 à 136 élèves à la rentrée 2018. Donc on baisse le nombre d'élèves. Par ailleurs, la commune, à l'heure actuelle, est quand même équipée. Elle dispose d'une cuisine centrale pour payer le logement. Elle dispose aussi d'un autre restaurant scolaire pour le collège. Donc une cuisine qui pourrait être utilisée, je corrige ce que je viens de dire, une cuisine qui pourrait être utilisée, et pourquoi ne pas...
dans un certain nombre de papiers qu'il y avait quatre cuisines centrales à Carnac, il n'y a aucune cuisine centrale à Carnac. Ça a une définition très très précise, et il n'y a pas de cuisine centrale au foyer logement. Elle n'est pas habilitée à servir d'autres établissements et ne pourrait pas le faire. Il faudrait faire des modifications très très importantes. Donc il n'y a pas de cuisine centrale à Carnac.
Très importante, il faudrait qu'elle soit chiffrée. Donc je vais quand même terminer, monsieur le maire.
Bien sûr.
De plus,
je corrigeais simplement une erreur
matérielle. De plus, il va y avoir un nouveau restaurant scolaire qui va être construit pour les élèves du privé, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec un investissement pour la restauration scolaire sur Carnac qui va être de l'ordre de 3 millions d'euros. Ça nous semble un peu excessif, même si en effet cet investissement...
Vous pouvez aussi comptabiliser l'investissement de tous les gens
qui
rénovent
leur restaurant
dans Carnac. Hein,
même si en effet cet investissement n'est pas payé par la, n'est pas financé par la commune, je le précise.
Donc le propos est
sans objet. Donc nous pensons quand même que ces réalisations, ce sont des, comme le boulevard de la plage, comme les deux offices de tourisme, des réalisations de prestige. Et qui constitue un investissement qui n'est pas vertueux parce qu'il ne correspond pas aux besoins réels de la population. Donc nous voterons contre le projet.
Merci monsieur De Ripper. On n'est pas surpris. On ne peut pas au moins vous dénier une certaine constance dans l'opposition et dans le refus, y compris, j'entends vos commentaires. Je pense qu'on a mené un projet qui... à l'inverse de vos remarques, n'est pas hors sol, puisqu'on a consulté l'ensemble des associations qui étaient concernées par ces projets, que ce soit l'école Saint-Michel. Vous avez même reproché cette approche qui a été choisie par l'école Saint-Michel. Moi, je suis un démocrate, j'écoute, et quand on me fait un certain nombre de remarques ou de demandes, j'essaye de les satisfaire quand elles sont censées. Donc, encore une fois, s'opposer pour s'opposer, c'est très bien, c'est une réalisation de prestige. Je pense qu'il n'y a pas de vocation à l'école à baisser ses effectifs. J'espère qu'ils remonteront un jour. Hein. C'est déjà arrivé. Par ailleurs, je pense que pour une ville comme Carnac, qui a du mal à retenir les jeunes familles, investir dans une école qui va probablement, dans les années qui viennent, être amenée à accueillir d'autres élèves, tout simplement parce que des écoles vont fermer dans la proximité géographique immédiate de Carnac, et que donc on sera amené à accueillir d'autres enfants. Et par ailleurs, une école, elle reçoit aussi des enfants parce qu'elle est attractive. Et je crois que rien n'est trop beau pour les enfants carnacois. Voilà, c'est systématiquement l'argument que vous utilisez. C'est pas du tout un investissement de prestige. C'est un investissement pour les enfants des écoles publiques de Carnac. Voilà, point final. Monsieur Do.
Et moi, je regrette, monsieur De Ripper, que vous n'abordiez pas un sujet important. Enfin, pour moi, qui ai mes enfants qui mangent à la cantine régulièrement, c'est l'aspect sécurité de ce bâtiment. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce bâtiment n'est pas sécuritaire. Je ne sais pas si le terme est bien employé. Je m'appuie sur notre technicien, la personne de Jean-Luc. Mais pour moi, ce bâtiment, enfin, quand nos enfants mangent là, ils ne mangent pas en sécurité.
Non, mais qu'il faille remplacer le bâtiment actuel par y trouver une autre solution et l'aspect sécuritaire, ça, je suis d'accord avec vous. Tout le monde le sait depuis. D'ailleurs, ça a
c'est
été.
Bien de le souligner, quand
ce
même.
Ce sont des points qui ont été soulignés il y a 4 ans lors de la campagne électorale. Tout le monde était d'accord sur le fait qu'il y avait un problème de sécurité avec le bâtiment actuel.
Monsieur de Ripert, vous êtes un petit peu incohérent parce que vous nous avez expliqué que cette réalisation était une réalisation de prestige et qu'elle coûtait trop cher. Pourtant, si on avait écouté vos préconisations au départ, on aurait fait une seule cantine. Et pour le coup, en termes d'argent public, ça aurait coûté beaucoup plus cher à la commune et aux contribuables carnacois. Donc je ne comprends pas tellement la logique, si ce n'est celle de s'opposer pour s'opposer, comme d'habitude.
Pourquoi beaucoup plus cher, monsieur le maire, puisqu'on vient de nous expliquer que de toute façon, le nombre de rationnaires n'entrait pas en compte dans le prix. C'est ce que vient de nous dire monsieur.
Il nous a dit qu'on pouvait mettre des mètres carrés supplémentaires
sans que ça coûte
trop. Ne mentez pas au cocotier, le monsieur n'a jamais dit ça. Il a dit que ce ne sont pas les mètres carrés les plus chers. Vous l'avez bien entendu. Il n'a pas dit ce que vous venez de dire. Donc écoutez attentivement et n'essayez pas de rebondir en disant quelque chose qui n'est pas exact et qui n'a pas été dit. Je dis simplement qu'une cantine pour les deux écoles, si d'aventure le Saint-Michel avait choisi cette option, aurait coûté beaucoup plus cher aux contribuables carnacois. Donc ce que vous avancez est un peu illogique en termes de dépenses publiques. C'est tout. Alors, donc, qui est contre ce projet? Parfait. Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Je remercie le conseil municipal d'avoir accepté qu'il y ait enfin une belle cantine municipale dans l'école publique de Carnac. Je pense que beaucoup de parents d'élèves et beaucoup d'enfants l'attendaient avec impatience. Merci.
Merci, Monsieur Blair.
On passe maintenant... Oui, pardon, merci, Monsieur Blair, pour la présentation. Et merci aussi pour le projet qui, esthétiquement, est, je trouve, très réussi, s'intègre vraiment parfaitement dans l'environnement. Et si même les riverains le disent, je pense que c'est la plus belle récompense. Merci à vous. On passe au rapport numéro 6, qui est le rapport d'activité 2007 des chantiers d'insertion. Vous en avez pris connaissance, j'imagine. C'est un très bel outil d'insertion et il faut se féliciter que ces chantiers d'insertion puissent se poursuivre. Il n'a malheureusement pas eu sur notre commune en 2017, mais il y en aura sans doute. Pas de remarque particulière, si ce n'est que de plus en plus de jeunes femmes participent à ces chantiers et c'est là aussi un motif de satisfaction. Vous l'avez vu, je l'ai constaté dans les statistiques. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des remarques sur ce rapport d'activité? Encore une fois, pas de vote, hein, il s'agit simplement d'en prendre connaissance. Je vous remercie et on passe donc immédiatement, Madame Robineau, à la représentation du conseil d'administration de l'association Maintien et Soins à domicile des personnes âgées, AMSADA, dont il nous faut élire le représentant de la commune.
Oui. Suite à l'arrêté d'extension pris par l'Agence régionale de la santé, étendant les possibilités d'intervention de l'association AMSADA aux communes de Carnac et Ploirnel, la commune de Carnac devient membre de droit du conseil d'administration de cette association. Donc il est proposé au conseil municipal de désigner un membre du conseil municipal afin de représenter la commune aux instances de l'association.
Bon, en toute logique, nous proposons Madame Robineau, qui est déjà représentante de la commune dans un certain nombre d'associations et de structures qui traitent de ces questions, pour un souci de cohérence. Est-ce qu'il y a un autre candidat? Je vous remercie. Je sens un score nord-coréen. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Unanimité pour Kim Jong-un, Robineau, élu à l'unanimité, bravo. Monsieur Marc Albert, rapport numéro 8 sur une acquisition de parcelles.
L'acquisition de parcelles, d'une parcelle et d'une partie d'une parcelle appartenant à Mme Leroux Anne-Marie. Donc c'est pour faire le rond-point du Nignol qui va être commencé dans l'automne. La petite parcelle est prise entière, la grande parcelle elle sera prise qu'une partie, mais aujourd'hui je ne peux pas vous le dire puisque le géomètre expert commence à travailler en début de semaine sur le terrain avec l'autorisation du propriétaire pour pouvoir justement après avoir les mètres carrés, pouvoir lui acheter les mètres carrés comme prévu, les surfaces prévues au prix de 3 euros du mètre carré. Donc une fois que tout ça sera fait, on aura la surface exacte et le prix exact à payer à M. Leroux. Donc on est allé avec lui au conseil des au service des voiries du département, pour qu'on lui explique bien pourquoi on mettait le rond-point à cet endroit-là et pourquoi on le mettait comme ci, pourquoi il y avait des branches d'une certaine façon. Donc, Je pense qu'il a compris une grande partie de la raison pour laquelle on le mettait là et pourquoi on pouvait faire comme ça. Donc, il a été d'accord. Et en sortant de la réunion, il nous a dit qu'on pouvait y aller, qu'il n'y avait pas de problème. Donc, on avance dessus.
Il y a des questions sur ce rapport. Monsieur Lerouzic.
C'est un point important pour l'entrée dans Carnac. Donc, je pense qu'il est grand temps de mettre en œuvre ce rond-point. Malheureusement, je trouve que le prix du terrain est un peu en dessous du niveau du marché. Lorsque vous vous adressez aux notaires pour des parcelles qui sortent du contexte agricole et forestier, ils estiment, suivant la position de la parcelle, entre 5 et 15 euros le mètre carré. Voilà, c'est la remarque que j'ai à faire sur ce point-là.
Ok, j'entends.
Compte tenu de l'importance que parcelles vont donner au giratoire, bon, une somme modique, un peu plus de 5 euros, puisque c'est la fourchette.
On est tombé d'accord avec les.
C'est insignifiant dans le budget de ce giratoire.
On est tombé d'accord avec les propriétaires, monsieur Lerouzic, c'est de l'argent public, donc à partir du moment où ils sont d'accord, je ne vais pas surenchérir.
Je pense que. Ils ont dû déterrer à côté.
J'essaie toujours de négocier au mieux pour la commune, donc ils sont d'accord à 3 euros. À moins qu'il y ait un vote à l'unanimité pour qu'on en propose plus, mais c'est une négociation, vous le savez bien, monsieur Lerouzic, qui était compliquée, et qui explique d'ailleurs en grande partie le retard sur ce rond-point. Hein. Quand il faut acheter du foncier, il faut toujours se mettre d'accord avec les propriétaires.
Ça, c'est sûr.
Et vous, voilà. Donc aujourd'hui, on a un accord. J'entends, hein, mais voilà. Oui. Écoutez, on a eu l'avis des domaines. On est tenu par l'avis des domaines. Hein, l'avis des domaines est beaucoup, beaucoup plus faible. On est déjà allé très au-delà de l'avis des domaines dans le cadre de la négociation. Donc, c'est toujours... ce serait compliqué d'aller beaucoup plus haut. Enfin, bon... J'avoue que je ne comprends pas très bien la remarque, même si on est là pour défendre, autour de cette table, on est là pour défendre les intérêts de la commune. Donc si on a un accord à 3 euros, je ne vois pas pourquoi on irait. Le prix du marché, c'est le prix sur lequel s'entendent un acheteur et un vendeur, jusqu'à preuve du contraire. Bon, pardon ? Oui, très très bien. Mais vous connaissez très bien cette affaire, monsieur Lerouzic, vous la connaissez très très bien. Donc les négociations, effectivement, ont été longues, et voilà, mais on est tombé d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, monsieur de Ripin ?
Est-ce que ces deux parcelles suffisent pour la construction du rond-point ?
Bien sûr.
Oui.
Les parcelles, en tout cas, les parcelles.
Ça ne peut pas déborder sur les parcelles du dessus.
Monsieur de Ripin, je vous ai montré le plan en commission de travaux.
Non, vous m'avez fait un
schéma. Oui, je vous ai fait un schéma.
Non, mais justement, c'est la question. Ça ne peut pas déborder. Parce que vous débordez sur le schéma que vous m'avez fait, vous avez débordé sur les parcelles qui se trouvent au-dessus.
Vous me dites, je vous ai fait un schéma, le plan, je vous le montrais, vous voyez que ça ne déborde pas. Sinon, on aurait demandé aux autres propriétaires.
Simple question.
Non, mais je vous réponds, ça déborde pas.
Parce que les parcelles du dessus, justement, ont un zonage spécial dans le.
Non, non, mais ça déborde pas. Ne faites pas de soucis, ça déborde pas. Sinon, on aurait essayé d'acheter les autres parcelles. Il n'y a pas de soucis. Non, c'est. J'ai bien dit que celle de gauche, on n'en prenait qu'une partie. Je vous ai fait un schéma aussi.
Bon, on passe au vote. Est-ce que le conseil municipal est d'accord pour acquérir ces parcelles ? Unanimité ? Je vous remercie. Toujours à une acquisition de parcelles, rapport numéro 9, toujours monsieur Marc Albert, cette fois-ci c'est à madame Dréano.
Oui, c'est madame Dréano qui vend une parcelle de la 120 de 2365 m². Et donc là, on n'a pas négocié, c'est elle qui a proposé le prix, hein, je tiens à vous le dire, comme ça, ça va plus vite. Elle nous a proposé pour 2365 m², 1184 euros. C'est une parcelle qui est à côté, derrière, pas loin des services techniques. On est en train de discuter avec d'autres propriétaires pour acheter d'autres terrains, pour qu'on puisse mettre tous nos terres et tous nos gravats corrects là-bas, pour éviter justement de louer des terrains qu'on loue, à la Maison Blanche, de façon pour tout mettre là-bas. Ce sera moins loin des services techniques. Donc voilà. Donc c'est le premier qu'on a acheté. Je suis en train de négocier avec d'autres. Les prix, on verra, on négocie. Donc tant qu'on n'a pas fini de négocier, le prix ne sortira pas. Voilà.
Vous ne pouvez pas augmenter le prix, là, cette fois-ci.
Vous nous demandez de valider un bordereau qui est hors la loi, car cette parcelle est en NM2, où tout exhaussement, affouillement et dépôt de déchets inertes est interdit.
Attendez, alors, M. Lerouzic, pour l'instant, on acquiert la parcelle,
Le bordereau.
C'est pas un rapport. Non, non, mais c'est pas. On peut très bien l'acquérir et ne pas mettre de gravat si c'est interdit. Même si je vois sur votre sourire, je vois à votre sourire que vous êtes content d'avoir trouvé cette petite boulette, si c'en est une. Mais vous inquiétez pas, on va quand même acquérir la parcelle. Et s'il est interdit d'y mettre des gravats, on y interdit. On ne mettra pas des gravats.
Sauf que la parcelle d'à côté. Je ne donnerai pas le nom du propriétaire. Et quand on a fait les fouilles de Dubosseno, toutes les terres ont été mises dessus, elles sont toujours là, donc ils se touchent les terrains. Donc ça veut dire qu'on a pu le faire à côté, on pourra peut-être le faire.
Vous avez le droit de les entreposer durant un certain temps.
Le débat est clos. Si c'est interdit, on ne le fera pas.
Voilà. Donc on ne peut pas valider le bordereau tel qu'il est mis. Hein.
Écoutez, ce que je vous propose, c'est d'enlever cette phrase sur les matériaux.
Voilà.
Ça vous va ?
Oui. Vous pouvez l'acheter, ça c'est vrai.
Vous voulez qu'on fasse un débat d'une heure sur la question là ?
Non, du tout.
S'il n'y a que ça. Donc on supprime la phrase. Madame Le Golban.
Oui, ben justement, comme vous êtes soucieux de tout denier public, est-ce qu'il vaut mieux pas reporter le bordereau et vérifier en fait c'est possible de le faire ?
Non, Madame Le Golban.
Écoutez, vous nous habituez à ça.
Ne vous inquiétez pas, si c'est, de toute façon, ça n'a même pas à figurer au rapport. Si ça n'y figure pas et si c'est autorisé, on le fera. Et puis si c'est pas autorisé, on le fera pas. Aussi simple que ça. Il servira à autre chose, ne vous inquiétez pas.
Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a déjà des dépôts de gravats dessus. Et c'est un peu illégal.
Et qui ont été faits par qui ? Monsieur Lourosic, donnez-nous la réponse.
Ah non, je sais pas. mais vu du tumulus Saint-Michel, vous les voyez.
Monsieur Daiper, vous avez une remarque aussi.
Oui, non, mais j'étais d'accord à ce que disait Madame Le Golban. Quel est l'intérêt d'acheter ce terrain s'il ne peut pas être utilisé pour stocker les matériaux
Madame
tels qu'il
Madame
d'être
Le Golban vient de le dire. Hein,
non, non, mais justement, vous me posez la question, mais je vous le dis. D'autant plus que c'est une zone naturelle. Hein, c'est une zone naturelle, il faut bien regarder ça.
Monsieur Daiper, ce débat est un peu. C'est un peu une guerre picrocolline. On va acquérir 2365 mètres carrés pour la modique somme de 1100,84 €. Et Monsieur Lourosic, avec grand bonheur, a trouvé une petite faille dans le rapport. Quand bien même on ne pourrait pas y entreposer des matériaux, c'est une très bonne affaire pour la commune. Donc nous allons l'acquérir. On verra si on a un usage. De toute façon, à cet endroit-là, on lui trouvera toujours un usage. Et puis, c'est fait partie également des réserves communales. C'est très bien d'avoir un terrain de 2365 mètres carrés à Carnac pour 1184 €. Ça vous va, Madame Le Golban ?
J'aimerais juste vous reprendre. C'est pas une petite faille. Je pense qu'on travaille nos dossiers et c'est tout simplement, voilà, on vérifie et puis à partir de là, quand on voit ça, je pense qu'il est très juste d'informer le conseil municipal.
Je vous en remercie, Madame Le
Golban. Qu'on ne peut pas faire ce que vous avez noté. Voilà, c'est tout.
Je vous en remercie, Madame Le Golban. On a évité une catastrophe grâce à vous. Si. C'est vraiment. Bon, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Alors, je reprends. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Marie-France aussi ? Ok. Alors, 4 voix contre. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Des votes pour ? Merci. Ce terrain appartiendra donc prochainement à la commune. Monsieur Marc Albert, signature des conventions de servitude de passage des canalisations pluviales du Rangouan. Du Rangouan, pardon.
On a marché avec ACTA pour faire passer nos canalisations d'eau pluviale sur le chemin du Ringuant. Eux, ils font passer les canalisations d'assainissement et on profite justement de faire un marché groupé pour faire passer ces canalisations. Donc il faut faire deux conventions de servitude à signer avec les propriétaires qui sont concernés. Voilà. Les crédits correspondants sont mis au budget pour le prévisionnel 2018. Et les travaux devraient commencer normalement en septembre si tout se passe bien avec ACTA. Voilà.
Des questions ? Monsieur Lourosic, le micro, c'est normal. Non. Ah, pardon. Ok. Je croyais qu'il y avait une question. Pas de question. On passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Deux abstentions. Unanimité. Je vous remercie. Monsieur Lotodé, rapport numéro 11, création d'une salle modulaire multifonction au Ménec.
Suite donc au bord de numéro 5 et de la démolition donc du. La structure modulaire qui accueille actuellement des activités sportives, dont le judo, la capoeira. Et donc, en conséquence, il convient de créer une salle pour accueillir ces différentes activités. Aussi, il apparaît opportun de regrouper les activités sportives sur le site du Ménec, à proximité des infrastructures existantes. Vu l'avis favorable émis par la commission travaux, environnement, sécurité, réunie le 15 mai, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire ou le conseiller délégué à lancer le marché public nécessaire à la construction d'un bâtiment modulaire et d'autoriser le maire ou le conseiller délégué à signer l'ensemble des pièces relatives à ce dossier.
Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ce rapport, Madame Le Golban ?
Alors là, pour une fois, je suis d'accord. C'est vrai qu'il faut regrouper toutes les activités sportives au Ménec. Ça me paraît important. On avait travaillé sur le dossier aussi à l'époque où on devait faire la salle des associations au lieu Eurève. L'implantation, en fait, du modulaire, ce sera où exactement ?
Ça sera dans le prolongement de la salle Omnisport sur le parking.
Sur le parking ?
Oui.
D'accord. C'est dédié à quel, vous avez déjà référencé, qui occupera ou qui pourra...
Le judo, il pourrait y avoir de la gym, il y aura les scolaires également qui l'utiliseront pendant la journée. Quoi.
D'accord. Ouais. Et c'est une... Pardon ?
Oui, enfin la...
Alors justement, ce modulaire, il y a plusieurs salles ou il y a une seule salle ?
Alors là, c'est pas encore fixé. Ouais. Il faudra que ce soit disponible au maximum à toutes les associations enfin, qui en auront besoin. Ça ne sera pas dédié à une association spécifique.
D'accord. Et donc, ça représente combien de mètres carrés, là, votre modulaire, là, à peu près ?
120. Oui.
Un tour de 120, on n'a pas encore fixé exactement, c'est mais 120. 115, 125, voilà.
C'est en fonction du nombre de modules qu'on pourra aligner.
D'accord. Et sous la salle des tribunes, combien elle fait, la pièce ? J'ai du mal, moi, avec des mètres carrés.
Je n'ai pas en tête, je vous dirais une bêtise, 70, moi je dirais 60-70 à peu près.
D'accord.
À peu près de tête, mais je crois que si vous avez ma durée, je me trompe.
Je crois que c'est 75, j'ai vu.
Ah, ben voilà, ouais. Pardon.
Si je pose la question, c'est parce que, bon, 120 mètres carrés, sous les tribunes, on voit bien que cette salle, déjà, pour la gym ou autre, ou pour le yoga, on est un peu à l'étroit. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de participants. Et je pense que... Si on doit faire quelque chose, pour le coup, là, c'est de faire quelque chose qui réponde à la demande de toutes les associations. C'est vrai que la gym, la danse, en plus, souvent, elles veulent fonctionner à peu près aux mêmes horaires. Et quand on voit 120 mètres carrés, j'ai des doutes qu'on puisse faire deux salles. Voilà, c'était un petit peu ça. Donc, j'espère qu'on sera associés dans la réflexion de ce projet parce que je crois que là, toutes les associations sont concernées.
Juste, ce serait bien. Si je peux me permettre une petite réflexion, c'est que la salle sous les tribunes perdure. Donc après, c'est une salle en plus. C'est pas
Enfin, c'est pas une salle en plus puisqu'on remplace celle qui existe déjà par celle que l'on va mettre au Ménac. Ouais, c'est la même, Nadine.
De quoi ? Continue.
Le modulaire qu'on met au terrain, pour toi, c'est une salle en plus ?
Oui.
Ouais. Oui. Et celle qu'on déconstruit actuellement, c'est quoi ?
Celle qu'on quoi ?
Qu'on déconstruit, tu...
Oui ? Non, parce que du coup, d'autres activités pourront...
Non, mais la cantine scolaire, actuellement, on va la construire et on détruit un modulaire.
Aujourd'hui, il n'y a que deux activités qui occupent ces locaux. Et je pense que demain, avec justement une salle plus importante, on pourra multiplier les activités. Ça, j'en suis convaincue. En ayant toujours la salle sous les tribunes. Non ? T'es sceptique ?
Pour le coup, je pense que de faire une salle supplémentaire, voire deux salles supplémentaires, là, c'est opportun parce qu'il y a énormément de monde. Enfin,
tu t'occupes des associations.
Ouais. Je me suis occupée des associations. Tu as dû être sollicité autant que moi.
Après, on dit souvent non quand même. Faire deux salles, éventuellement, ce sera le. Mais après, maintenant, il y a des contraintes en matière d'hygiène et de sanitaire qui font que la surface, même minimale pour une salle, est déjà très importante. Pour accueillir une activité sportive, que ce soit yoga, que ce soit judo, que ce soit autre, si on a une réglementation qui est beaucoup plus ferme. Et donc, du coup, si on peut réussir à mettre deux salles, ce sera très bien. Mais du coup, et je pense que les conditions d'accueil par rapport au Belvédère seront un petit peu différentes. Et en plus, on couplera dans cette réalisation le fait qu'aujourd'hui, la salle Omnisport... Au niveau sanitaire handicapé, on n'est pas dans les clous. Et là, ça permet aussi de répondre à cette demande.
Alors, ça, c'était ma première remarque. Deuxième remarque, donc, j'ai demandé où vous alliez installer ce modulaire. Et donc, vous m'avez répondu donc, sur le parking. Ce que je trouve dommage, c'est que déjà, la salle de Ménech, et ça, c'est subtil. Alors, ce qui n'est pas dommage, c'est qu'elle soit beaucoup plus utilisée. On voit que la salle de Ménech est plus louée parce que les tarifs, on les a adaptés. Et ça, c'est très bien. Par contre, le parking du Ménech n'arrive pas à absorber, en fait, le nombre de participants donc quand ils vont à la salle du Ménech. Et on voit aux abords donc de enfin sur aux abords de la route les gens stationnent n'importe comment parce qu'on n'a pas assez de stationnement. Et là on va construire un modulaire, enfin on va occuper le parking, on va enlever des places de parking encore à nouveau. Enfin, moi je pensais aussi parce que vous parlez des vestiaires ou des sanitaires.
Oui, les sanitaires.
Ouais. Il y avait eu un projet à l'époque où on parlait de faire la maison des associations à rêve. C'était, je crois, Monsieur Lotodé aussi, d'ailleurs, vous aviez eu cette idée-là. C'était d'agrandir, enfin, c'était avant moi, j'avais lu tout le rapport, toutes les réflexions qu'il avait faites et tous les travaux qu'il avait faits. Donc, c'était vous qui avez fait, et après, j'ai fait le même cheminement que vous. Et on devait donc profiter de faire ou d'agrandir en fait sous les tribunes, c'est-à-dire qu'on reniait sur la place derrière là. Ça permettait de faire un bureau à peu près pour comment Jean-Yves Le Bayon, enfin bref, il y avait tous les bureaux qui étaient faits là, et de faire plusieurs salles, et surtout aussi au niveau des sanitaires et des vestiaires pour le football, enfin ou toutes les associations qui viennent, hein, puisque maintenant il y a des marcheurs et autres. Et donc voilà, c'était ça l'idée, et je trouve que c'était sûrement plus autant à propos, et peut-être plus à propos, parce que les parkings au Ménech, on voit quand même qu'on est en déficit.
Alors juste, on a étudié la possibilité de faire au niveau des tribunes, sauf que d'un point de vue sécuritaire, c'est pas adéquat, puisque les tribunes, je vais pas dire branlantes, mais voilà. Du coup, on avait eu un souci, on a réaffecté Jean-Yves Le Bayon dans des locaux différents, le foot aussi. Après, sur la structure du stade au niveau des tribunes, là, d'un point de vue sécurité, a priori, on est vraiment contraint. D'où, comment ?
C'était compliqué de rattacher un bâtiment adossé aux tribunes.
Attendez, enfin, techniquement. N'oubliez pas, gardez à l'esprit qu'en termes de coûts, ce n'était pas le même projet. L'avantage du modulaire, maintenant, si on en fait du modulaire très moderne et avec des coûts relativement limités, si on fait du sur-mesure adossé à la tribune, là, ce n'est plus du modulaire, c'est un projet, je dirais, sur-mesure, avec des coûts qui sont très, très, très supérieurs. Donc l'idée n'est pas mauvaise. Hein. On l'avait envisagé également pour l'agrandissement des vestiaires du foot, hein, puisqu'on a des vestiaires qui sont, voilà, globalement, qui mériteraient d'être agrandis. Donc j'entends la remarque pour les deux salles. Hein. Si c'est possible, on essaiera de maximiser l'utilisation des mètres carrés. Pour ce qui concerne l'adossement à la tribune, d'un point de vue technique et surtout d'un point de vue du coût, non pas que l'idée soit mauvaise, mais le coût du projet aura été beaucoup, beaucoup plus élevé.
Bah, ça me rassure votre discours, Monsieur Lepic, parce que quand j'entends parler de sécurité au niveau des tribunes, je me dis qu'on laisse les associations faire de la gym là, le football comment aussi faire ses activités. Je pense que le discours doit être plus rassurant quand même.
Ne vous inquiétez pas, Madame
Le Golvan, c'est par rapport à un bâtiment supplémentaire aux tribunes qu'on ferait, qu'on adosserait à la tribune. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas possible techniquement parlant, c'est pas possible. Ce serait pas sérieux.
C'est compliqué. C'est compliqué pour des raisons techniques.
La solution serait de raser les tribunes.
Par ailleurs, je vous rassure, Madame Le Golvan, il n'y a pas de problème de sécurité dans le bâtiment actuel.
Ah non, pas du tout. C'est le fait de rajouter une structure supplémentaire greffée sur les tribunes.
Bon, les tribunes, compliqué. De toute façon, ce que dit Nadine est parfaitement exact. Hein, vous avez vu qu'il y a un petit problème de corrosion sur un certain nombre de structures métalliques, hein, qu'on surveille de très très près. On n'est pas sûr que ce bâtiment ait une pérennité, même si aujourd'hui tout le monde est en sécurité dedans. Il est examiné, inspecté régulièrement. Mais construire un bâtiment neuf sur quelque chose qui n'a pas une pérennité assurée au-delà d'une dizaine d'années, c'est pas non plus forcément une bonne idée, quoi. Mais pour les salles, je pense qu'on tiendra compte de la remarque et si on peut faire soit une salle qui est coupée en deux avec une cloison mobile, ça pourrait être quelque chose qui pourrait faire l'affaire. Monsieur Audot.
Moi, je rejoins Janine sur ce qu'elle a dit. Moi, je pense qu'effectivement, est-ce qu'on a une idée du nombre d'associations en fait, qui vont sous les tribunes, enfin gymnastique, etc. Après, si on prend le Belvédère aujourd'hui, enfin moi je sais qu'il y a le judo qui est animé par
judo Michel Capoeira. Point.
Il y a eu Capoeira, je ne sais pas s'il y a encore.
Ah si, il y a toujours Capoeira. Ils ont même utilisé il y a une semaine la rotonde pour faire un stage. Non, il y a toujours la Capoeira. Donc aujourd'hui, il y a deux associations dans ce bâtiment.
Et bon, je pense effectivement qu'il faudra bien étudier l'aménagement de ce bâtiment pour que les différentes associations ou les différents sports puissent vivre en bonne intelligence.
Après, j'ai envie de te dire que c'est le lot de toutes les salles municipales aujourd'hui qui doivent essayer de rendre service à l'ensemble des associations qui n'est que... Enfin, le nombre est grandissant tous les ans. Donc après, si demain on a un bâtiment qui, ne serait-ce, accueille 4 associations au lieu de 2, déjà c'est... Pour moi, c'est quelque part avoir l'offre qui est plus adéquate, au moins pour 4 associations, alors qu'aujourd'hui, c'est que 2. Non, parce que si on prend le judo, c'est 2 jours.
Le judo, c'est 2 jours. Les autres jours, il pourrait être utilisé par d'autres associations. Et ben, ce ne sera pas totalement dédié à deux associations. C'est-à-dire qu'il y aura, comme dans les autres salles, un calendrier avec une occupation lundi, mardi, mercredi, toute la semaine. Donc on va aussi, contrairement à la situation actuelle où il y a deux associations qui mobilisent une salle, quand on dit 4 associations, ce sera peut-être beaucoup plus, puisqu'on va ouvrir des créneaux qui seront ouverts à la disposition des associations. Et
aujourd'hui,
un petit instant, je termine, merci. Et donc, quand on aura mis en place l'agenda et le calendrier qui permettra de gérer la salle, on aura probablement beaucoup d'associations et on va évidemment faire le tour des associations pour voir qui pourrait être intéressé, quelle activité on pourrait transférer de la salle sous les tribunes à cette nouvelle salle et quelle activité aurait vocation à rester sous la salle sous les tribunes.
Juste parce que je crois que... Quand on pratique le judo, en fait, au niveau de la salle du judo, il y a toujours les tapis de sol. Ils restent à l'année. Parce que, évidemment, quand j'avais proposé à la capoeira d'aller là-bas, c'est parce que le modulaire est divisé en deux, là, déjà, actuellement. Donc, après, ils veulent tous les mêmes créneaux, et c'est ça la difficulté, en fait, qu'on a. Donc,
Madame Moret. Non, je veux pas brimer la parole de l'adjointe aux associations. C'est sûr ?
Ouais.
Bon. On passe au vote. J'ai mon ragoût qui est sur le feu là. On passe au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre donc la création de cette salle multifonction au Ménec ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité. Je vous remercie. On passe au rapport numéro 12. Monsieur Marc Albert. On va faire ça rapidement parce que c'est l'autorisation donnée au maire.
Si vous voulez, je fais 12, 13, 14 en même temps.
Oui, tout à fait.
C'est l'autorisation donnée au maire pour déposer une demande de déclaration préalable pour la réflexion, pour plusieurs réflexions. Donc il y a le 12, c'est la réflexion de la toiture des garages de Bellevue. La 13, c'est la réhabilitation du bardage du centre technique municipal qui sera fait par tranche. Et la 14, c'est le remplacement de certaines menuiseries au musée de la préhistoire. Voilà, ça fait 12, 13, 14, si ça vous va.
Est-ce qu'il y a des questions ? Votez rapidement. Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Oui. Oui, oui, tout à fait.
Mais oui. Sauf erreur de ma part. Hein.
Ah oui, pardon. Le remplacement des menuiseries au musée de la préhistoire, c'est quoi exactement ?
Il y a quelques fenêtres qui fuient, donc on va en changer quelques-unes. Voilà, il y en a 6, entre 6 ou 8 à changer. On doit aller voir exactement où ça en est. Comme il faut poser un permis, on va voir ce que demande l'ABF. À rapport à ce que demandera l'ABF et le budget qu'on a mis, on en fera 6 ou 7 ou 8. Tout dépend de ce qu'ils demandent comme matériaux qui vont dedans et comme ça, les devis qu'on aura. Puis voilà. Ce qu'on a parlé en commission de travaux.
Il y a d'autres questions sur ces autorisations données au maire ? Alors, est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Philippe Audot, il aura beaucoup parlé aujourd'hui.
Monsieur le maire.
Une convention d'installation, de gestion et de remplacement des lignes de communication électronique à très haut débit en fibre optique, c'est la spécialité de Monsieur Audot, les télécommunications. Merci.
Donc, vu les courriers de Suez Consulting du 30 novembre 2017 informant la commune que plusieurs immeubles sont concernés par le déploiement de la fibre optique, que les conditions d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement des lignes de communication électronique en fibre optique établi par un opérateur à l'intérieur d'un immeuble de logement ou à usage mixte
et permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finaux font l'objet d'une convention entre cet opérateur et le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires. La convention est conclue pour une durée de 25 ans à compter de la date de signature. Sans dénonciation par l'une ou l'autre des parties, elle est renouvelée tacitement pour une durée indéterminée. Suivant cette convention, Mégalis Bretagne implantera à ses frais le réseau de fibres optiques en partie verticale, utilisant les gaines et passages existants ou les passages créés après réalisation des travaux nécessaires autorisés. L'implantation de ce réseau interne sera réalisée selon les normes en vigueur et en application des règles de l'art. Le réseau de fibres optiques ainsi créé appartiendra à Mégalis Bretagne et sera mutualisable avec d'autres opérateurs de services de très haut débit FTTH. Je ne vous ferai pas la prononciation en anglais. À FFTH pour fibres mutualisées, afin de commercialiser leur offre auprès des occupants de l'immeuble. Cette opération est sans incidence financière pour la commune de Carmac, l'ensemble des dépenses étant d'installation pardon, et d'entretien étant à la charge de Mégalis Bretagne. Les bâtiments identifiés appartenant à la commune de Carmac sont situés 11 rue des Corrigans et 45 rue Saint-Cornélis. 46, pardon. Oups. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué a signé les deux conventions concernant les bâtiments du 11 rue des Corrigans et du 46 rue Saint-Cornélis et tout document nécessaire à ce dossier.
Position à ce que la commune signe ces conventions ? Pas d'abstention non plus, unanimité, je vous remercie. Monsieur Lejean, qu'on n'aura pas encore entendu aujourd'hui, d'habitude. Le CIVU. La participation 2018 de la commune.
Voilà, pour le centre de secours installé à Carnac, vous avez un petit tableau derrière qui vous redonne le coût. La seule différence qu'il y a cette année, c'est qu'il y a une participation du SDIS qui n'existait pas avant. Et cette participation est due parce qu'effectivement, nous avons des pompiers de Carnac. Donc, et de la commune, entre autres, pardon, les employés de la commune, pardon, des pompiers de Carnac avec qui sont des employés communaux, pardon, et donc qui fait baisser effectivement notre participation de 2307,99 € dont la participation pour 2018 est de 222,52 € contre l'année dernière 219 834,84 €.
Je peux ajouter que la contribution de la commune augmente un tout petit peu parce qu'on a décidé de mettre tous les ans 15 000 € de travaux entre les communes pour commencer à entretenir un petit peu le bâtiment. Donc, il y a des choses à changer, des choses à entretenir, des trucs à refaire. Donc la contribution n'a pas augmenté, mais c'est qu'on en décide de mettre 15 000 par an pour faire des travaux et d'entretien, commencer. Sinon, si on ne commence jamais, un jour, il y aura tout le bâtiment à refaire. Voilà, cette année, la chaudière a changé, donc on aura un petit peu plus cette année. La chaudière ne marche plus, donc enfin, elle ne fonctionne plus plutôt parce qu'elle est toujours à la même place. Et du coup, et du coup, c'est pour ça que cette année, il y aura un petit peu plus. Mais disons, c'est une moyenne de 15 000 par an. Ça peut être 16 000 une année, 14 000 l'année d'après. Voilà, merci.
Vous avez une question ?
Oui, on a des salariés qui travaillent au SDIS à Vannes ou c'est quoi ?
Enfin, j'ai pas bien compris. La participation du SDIS de Vannes, puisque nous avons des salariés municipaux qui sont pompiers volontaires. Voilà. Et donc, pour inciter les communes à solliciter leurs salariés pour les mettre à disposition, effectivement, du centre de secours, il y a une participation du SDIS.
Incitative pour effectivement. Dans le cadre quand on recrute par exemple un agent, on peut privilégier un agent qui sera pompier volontaire pour. On sait qu'on a du mal à avoir beaucoup de volontaires et donc le SDIS participe de manière financière incitativement pour récompenser les communes qui font cet effort. Et à Carnac, on fait un effort assez important puisqu'on a plusieurs employés municipaux qui sont liés par convention et qui sont donc pompiers volontaires.
Quelques élus également.
Exact. Mais il est tellement modeste que. Je n'osais pas le citer. Et donc, pardon, monsieur Taripa ? Non. Et donc, en fait, on a quand même des. Aujourd'hui, je dirais nationalement, on a beaucoup de mal à renouveler les effectifs de pompiers volontaires. Hein, et d'ailleurs, je rebondis sur ce que disait Madame Le Golvan pour rendre hommage aux employés municipaux ou aux élus qui sont pompiers volontaires. Et donc cette participation incitative du SDIS est particulièrement bienvenue, même si, je dirais, voilà, elle est. elle n'est pas très très importante, mais en tout cas, elle contribue à remercier et à inciter les communes à le faire. Monsieur Deripa ?
On connaît la répartition des interventions par commune ?
Oui. On la connaît, je ne l'ai pas de tête, mais c'est massivement Carnac.
Et cette répartition, elle est cohérente avec le...
Oui, tout à fait.
La base de calcul du montant est par rapport à ça. Et rappelez-vous...
Normalement, c'est par rapport à la population des GF, non ?
Oui, il y a deux choses, rappelez.
Non, en fait, il y a les deux, dans la clé de calcul. Et Carnac est massivement, c'est pas étonnant, mais je sais pas, tu les as de mémoire, toi, Loïc ?
De mémoire, en tout cas, Carnac représente plus de 50% des interventions. Et donc là, on est à 40%, par contre, pour la participation.
Pas d'autres questions ? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Et on remercie encore une fois les pompiers de la caserne de Carnac, ainsi que les volontaires communaux et les élus. Merci à eux. Monsieur Lejean,
oui.
Vente de matériel via la plateforme Web Enchères.
Donc nous avions voté pour mettre le matériel, que je voulais dire tout à l'heure pour la cantine municipale, hein, s'il y a du matériel en trop, on le mettra sur Web Enchères, on verra bien s'il part, qu'on n'utilise pas. Donc c'est qu'aujourd'hui, le matériel de renouvellement qu'on a sur la commune, systématiquement, on a décidé de le mettre d'adhérer et de le mettre sur la plateforme Web Enchères. Et effectivement, nous avons vendu du matériel cet an dernier, et dont certains qui ont dépassé une certaine somme, et donc nous avons obligé de passer en conseil municipal et de demander aussi de modifier le montant jusqu'à concurrence de 20 000 euros avant de passer en conseil municipal, puisqu'il peut y avoir différents matériels, entre autres, je pense, du matériel au CTM sur du gros matériel qui pourra arriver rapidement à 20 000 euros.
Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur cette innovation ? Aucune remarque ? Pas de vote contre ? Pas d'abstention, unanimité, je vous remercie. On passe à quelques rapports liés au personnel. Monsieur Chapelle.
Il s'agit de valider la modification du tableau des effectifs suite à un départ. Vous m'entendez pas. Il s'agit de proposer la modification du tableau des effectifs dû au départ en retraite d'un agent titulaire. Ce poste-là deviendra vacant lorsque cet agent sera parti en retraite, mais en attendant, évidemment, il faut créer un poste d'emploi adjoint administratif principal première classe pour permettre donc le remplacement de cette personne.
C'est dans quel service ?
C'est dans le service RH.
Non, ça, on n'a pas le droit de le dire. Mais enfin, c'est pas compliqué, un service RH. Hein.
Oui, mais donc on...
Il y a rien jeune.
Femme ou homme.
Mais donc, on crée le poste, mais on n'embauche pas tout de suite.
On embauchera. Avant d'embaucher, il faut d'abord créer le poste, déjà. Donc, il faut déjà le valider aujourd'hui. Et quand on aura choisi la personne, il y aura une période certainement pendant laquelle il y aura une transition, peut-être de, je ne sais pas si on a décidé ça, de quelques mois pendant laquelle il y aura les deux postes seront pourvus. Et ensuite, le poste de la personne qui est partie en retraite sera supprimé. Okay.
Le service RH n'est pas pléthorique. Hein. Je crois qu'il y a deux personnes. Donc, quand il y a un départ en retraite, il faut absolument le remplacer. Bon, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Abstention ? Unanimité, je vous remercie. Le rapport 19, les élections professionnelles 2018. Monsieur Chapelle, toujours.
Alors là aussi, c'est une disposition, il s'agit d'une disposition réglementaire qui prévoit qu'un CHSCT soit créé dans chaque collectivité employant au moins 50 agents. Alors la commune peut décider par délibération de créer un CHSCT commun aux agents de la commune et aux différents établissements, en l'occurrence ici le CCAS, à condition que l'effectif total concerné soit supérieur à 50 agents, ce qui est le cas. Donc, considérant qu'il y a un intérêt à disposer d'un CHSCT commun compétent pour l'ensemble des agents de la commune et du CCAS, on vous propose donc De le créer. Alors, on rappelle la page suivante, le nombre d'agents, évidemment, 142 agents au total.
Alors, sachant que c'est le comité technique qui est l'objet du prochain rapport et le CHSCT fonctionne déjà sous cette configuration et fonctionne plutôt très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur ce... Monsieur de Ripin.
Oui, une question, une remarque. La question, ça concerne le nombre d'agents sur la commune. On donne 108 agents. Or, sur le tableau qui est joint au compte administratif, on est sur 103 agents. Ça vient d'où la différence?
Alors, il doit peut-être y avoir un problème de...
Le ratio n'est peut-être pas le même de calcul au niveau équivalent temps plein ou au niveau des titulaires ou pas?
Ben justement, parce que sur le...
Philippe Charpentier va vous répondre.
Ouais.
On a des contractuels à prendre en compte au 1er janvier en fonction du nombre de mois présents dans l'établissement.
Ouais.
Même si c'est un contractuel qui reste 6 mois, par exemple, chez nous, on est obligé de le prendre pour une sélection professionnelle.
Ah. Ils sont pas dans...
C'est à la date du 1er janvier. À la date du 1er janvier, on prend tous les personnels, on regarde le nombre de temps qu'ils sont là. Par les
titulaires. Donc en fait, ils ne sont pas dans les emplois budgétaires.
Il y en a qui sont partis, mais ils sont comptés dans les calculs.
D'accord, ok. Ils sont comptés pour les élections, mais ils ne sont pas dans le tableau des emplois budgétaires. D'accord.
Je vous propose de voter les deux rapports en même temps.
J'avais une remarque aussi.
Oui, monsieur Daïba, allez-y.
Bon, je sais bien que je parle du comité technique, puisque tout est lié. Je sais bien que le comité technique n'est pas une commission municipale. Je sais qu'en tant que tel, le comité technique n'obéit pas aux mêmes règles de représentativité proportionnelle des différents groupes du conseil municipal. Cependant, dans pratiquement toutes les communes, dans toutes les instances municipales, on réserve une place à l'opposition. Je constate que ça ne se passe pas comme ça à Carnac. Or, quand vous étiez dans l'opposition, monsieur le maire, il n'y a pas si longtemps, votre groupe était représenté au comité technique. Donc je constate aussi que vous n'avez pas exactement la même conception de la démocratie que la municipalité précédente.
Sans commentaire. Parfait, on passe au vote. Je vous propose de voter, après cette belle leçon de démocratie, je vous propose de voter les deux rapports en même temps, le comité technique et le CHSCT, hein, puisque ils portent sur le même objet. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. On passe également donc au rapport 21 maintenant, toujours sur les élections professionnelles, et là c'est la détermination du nombre de représentants, et je pense qu'on peut aussi voter les deux en même temps, monsieur Chapin.
On l'a évoqué, l'effectif apprécié, donc comme le disait monsieur Charpentier, au 1er janvier 2018, qui est vérifié par le centre de gestion, sert à déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel, et donc on retombe donc sur les 142 agents qui justifient donc la création du comité d'hygiène, de sécurité, etc. Donc, il est proposé de fixer le nombre de représentants titulaires à 5 agents et en nombre égal le nombre de représentants suppléants. De décider le maintien du paritarisme, c'est-à-dire un nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représentants titulaires et suppléants du personnel.
Il y a des questions sur ce nombre de représentants? C'est un calcul légal, évidemment, qui est rapporté au nombre d'agents. On vote pour les deux rapports, le 21 et le 22, si vous en êtes d'accord. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Oudois, le rapport 23 sur une demande de subvention.
Oui, une demande de subvention pour le musée de préhistoire auprès du conseil régional pour un projet autour des Landes de Bretagne en partenariat avec l'écomusée du pays de Rennes.
En général, les demandes de subvention, tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord? Allons-y, on demande la subvention. Dernier rapport, donc celui-là, c'est sur les taux que nous avions votés au dernier conseil municipal. La préfecture nous a demandé de revoter parce que, effectivement, avec les lois Macron, c'est un petit peu compliqué. Monsieur Lejean va vous expliquer, c'est très mineur.
Oui, c'est relativement simple. Dans le cadre de la future loi Macron, qui on pensait qu'elle serait sortie un peu plus rapidement sur les taxes d'habitation, puisque je vous rappelle que dans le temps, il fallait que, lorsqu'on votait une hausse ou une baisse du taux de la taxe d'habitation, il fallait qu'elle soit en adéquation avec la taxe foncière non bâtie. C'est-à-dire, si vous baissez ou vous augmentez votre taxe d'habitation, vous devez baisser et augmenter la taxe du foncier non bâti. Or, dans la nouvelle, dans le projet de nouvelle loi Macron, si vous voulez, sur la réforme de la taxe d'habitation, il était prévu de supprimer ce lien. Ça a pris du retard, ça n'a pas été fait. Donc c'est pour ça qu'à l'époque, si vous voulez, quand M. Giretti était présent lors des deux, de la présentation du budget primitif ou du DOB, vous n'avez pas soulevé le problème, puisqu'effectivement, normalement, ça devait être supprimé. Ça a pris du retard, c'est pas supprimé, donc la préfecture nous demande de voter aujourd'hui une baisse au même niveau du taux du foncier non bâti.
Il y a 1000 euros de moins de rentrée budgétaire, c'est ça à peu près ?
Tout à fait. Donc l'impact, je vous rappelle, à peu près les taxes, c'est 5,2 millions sur l'ensemble de la commune. C'est 36 000 euros pour le foncier non bâti. Donc l'impact est de 1 025 euros sur le budget, sachant que dans les deux autres taxes, grosso modo, tous les ans, nous avons à peu près 10 000 euros de marge. Pourquoi ? Tout simplement que lorsqu'on fait notre budget prévisionnel, on prend que en compte l'évolution des valeurs locatives que nous transmet effectivement la DGFiP et on ne tient pas compte du nombre de rôles qui évoluent tous les ans. C'est pour ça qu'il y a une petite
différence. Des questions sur ce dernier rapport ?
En 2014, on l'avait augmenté ou pas, la taxe ?
Oui, on a, Oui, on avait tout augmenté. On avait augmenté 3. De mémoire.
On avait augmenté les trois.
Vous reconnaissez
que c'est difficile de voter alors qu'on n'a pas eu les éléments avant.
Attendez, monsieur de Ripper, vous avez entièrement raison dans ce que vous dites. Mais comme nous, on a découvert quelque chose, si vous voulez, mardi. Et à un moment, moi j'ai eu la personne au téléphone, je lui ai dit, attendez, je comprends pas bien, là, je tombe un peu des nues. On a quand même les documents qui partent à la trésorerie, ainsi de suite. Personne n'a soulevé la problématique. Je dis, que ce soit en baisse ou en hausse, il n'y a pas que la commune de Carnac, il y a d'autres communes, ainsi de suite. Et après, il est revenu effectivement vers nous, et effectivement, ça pose un gros problème. Alors nous, c'était un peu moins dramatique, c'est une baisse. C'est effectivement un impact qui n'est pas énorme, donc il n'y a pas de problème. Mais imaginez-vous que quand c'est une hausse, quand vous avez voté le budget primitif, et là on vous dit non, vous revenez à 2017, et là il faut revoter tout le budget parce qu'il ne tient plus la route, c'est nettement plus compliqué.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, sauf que pour être cohérent avec le vote qu'on a déjà fait concernant la baisse... On s'est abstenu, donc, mais j'ai pas de problème. Mais pour s'abstenir, il faut au moins avoir tous les éléments. Donc on va s'abstenir, nous.
Non, mais tout à fait. Il n'y a pas de problème dessus. Je voulais donc tout simplement vous expliquer la problématique qu'on s'est retrouvée et qu'il nous demande de régulariser et de régulariser rapidement. Comme on avait le conseil aujourd'hui, ils nous ont demandé de le passer aujourd'hui. C'est pour ça qu'on n'a pas pu vous avertir avant. Et l'information, on l'a eue mardi matin dans le désordre. Pour être à peu près dans l'ordre mardi soir. C'est pas ce qu'il y a plus.
Je vous propose donc de passer au vote. Alors, il y a des abstentions. Voilà, 4 abstentions. Des votes contre, il n'y en a pas. Ce rapport est donc adopté. Je vous souhaite tous, en l'absence de questions orales ou diverses, un bon week-end.
Et si, je voudrais faire une petite remarque parce que vous nous accusez souvent un peu. Méchamment d'ailleurs, d'être dans l'opposition systématique, mais si vous comptabilisez le nombre de délibérations auxquelles on dit oui, je pense qu'il y en a plus où on dit oui que celles où on dit non.
Madame Le Golevent, au début du mandat, ne voulait pas qu'on vous appelle l'opposition, et pourtant, dans tous vos documents, maintenant, le vocable opposition apparaît. Donc je ne sais pas, il y a dû avoir un petit changement, sans doute. Bon week-end.
Quel nombre de salauds! T'as pas de soutien dans cette commune.
Petit bidou, ton micro.
Ils sont méchants avec moi, là, les deux.